Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la myasthénie auto-immune ou myasthénia gravis. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Antoine Pega. Docteur Pega, bonjour.
Bonjour.
Docteur Pega, vous êtes neurologue, praticien hospitalier au sein du service d'électroneuromyographie et de pathologie neuromusculaire de l'hôpital Pierre Wertheimer des Hospices Civils de Lyon, qui est également centre de référence des maladies neuromusculaires rares. Vous êtes aussi spécialiste du diagnostic et de la prise en charge des pathologies neuromusculaires. Alors aujourd'hui, nous abordons l'aspect diagnostique de la myasthénie auto-immune. Tout d'abord, docteur Pega, qu'en pensez à une myasthénie ?
Il faut penser à une myasthénie devant des symptômes neurologiques qui sont d'une part assez variés, mais qui sont fluctuants dans une même journée, et des patients qui s'aggravent au cours de la journée dans leurs symptômes quand ils font de plus en plus d'activités, ils sont de plus en plus graves et ils ont de plus en plus de symptômes. Les symptômes ne sont pas fixés finalement. Les symptômes les plus fréquents, c'est les symptômes qui sont oculaires, avec vraiment une ptose de l'œil, une vision double, avec un ptosis qui est souvent asymétrique. Et puis ils ont souvent une atteinte bulbaire aussi, avec des troubles de la parole, de l'articulation, une voix un peu nasonnée, parfois des problèmes de mastication. Et puis, très souvent, ils ont aussi une fatigabilité des bras et des jambes qui est plutôt proximale. Donc, par exemple, pour se laver les cheveux, se laver les dents ou se relever d'un siège ou monter des escaliers, par exemple. Et puis, quand ils sont plus sévères, ils peuvent avoir même une atteinte respiratoire, par exemple. La clé, c'est qu'ils sont fluctuants.
Et ensuite, que faire pour établir le diagnostic ?
Pour établir le diagnostic, ça dépend un peu de qu'est-ce qu'ils ont comme symptôme finalement, mais le plus souvent, ils ont un symptôme oculaire avec un ptosis, et ça, on a un signe clinique assez facile à faire, qui est le test du glaçon. On prend un glaçon ou quelque chose qui a été mis dans un glace très froid, qu'on met sur l'œil qui a le ptosis. On met ça une à deux minutes, et puis finalement, on va avoir la surprise de voir l'œil qui se relève, et ça, c'est un très très bon signe en faveur d'une myasthénie. Après, quand ils ont une diplopie, on va bien analyser si cette diplopie elle est monoculaire ou binoculaire. Donc, elle va disparaître quand on cache un œil dans la myasthénie. Puis, on va analyser, voir si les yeux bougent dans toutes les amplitudes. On va essayer de mettre en évidence une parésie oculomotrice. Fatigue des bras, des jambes. On va essayer de faire tenir les bras en l'air, les jambes en l'air, avec un score global où il faut tenir un certain nombre de temps. C'est un score qu'on appelle le score de d'Ossermann ou Garch. Et puis, on va surtout voir qu'il n'y a pas d'autres signes neurologiques. Par exemple, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de signe d'examen de problème sensitif, il n'y a pas de syndrome pyramidal, par exemple, ou il n'y a pas d'ataxie cinétique. Et puis les réflexes sont vraiment normaux, il n'y a pas d'aréflexie, alors qu'on va le voir dans certains diagnostics différentiels, les réflexes peuvent ne plus être présents. Et puis finalement, la clé du diagnostic, après avoir fait l'examen physique, ça va être l'électroneuromyogramme. Donc on va faire toujours un électroneuromyogramme assez simple, avec on fait un nerf moteur, un nerf sensitif, qui vont être normaux dans cette maladie, pour vérifier l'absence de polyneuropathie. Et puis on va faire la myographie en piquant un ou deux muscles et vérifier que là, il n'y a pas d'activité de repos anormale qu'on a dans d'autres maladies, mais qu'il n'y a pas dans la myasthénie. Et puis les tracés à l'effort vont être le plus souvent normaux, ou quand la myasthénie est très sévère, il peut y avoir des tracés qu'on appelle myogènes. Mais la clé du diagnostic qu'on a en électromyogramme, c'est faire ce qu'on appelle des stimulations répétitives à basse fréquence. On va finalement essayer de mimer un effort d'un patient, puisqu'on l'a dit, ils sont fatigables au décours d'un effort. Et bien, on va stimuler une dizaine de fois pour essayer de fatiguer le muscle. Et là, on va avoir la signature électrophysiologique qu'on a dans la myasthénie, qu'on appelle un décrément. On va avoir en fait l'amplitude qui va partir d'une amplitude maximale et qui va baisser petit à petit au cours des stimulations, pour atteindre son minimum au quatrième ou cinquième coup. Et ça, on va faire ça dans différents couples nerfs-muscles. On va cibler des muscles qui sont faibles cliniquement, donc le plus souvent les muscles proximaux, par exemple le couple spinal-trapèze qu'on a l'habitude de faire, ou le muscle radial enconné. Et puis, on va faire aussi, par exemple, pour des patients qui ont une atteinte bulbaire, on va faire des stimulations répétitives au niveau de la sphère bulbaire, par exemple, dans le complexe sous-mental. Mais ça, ce diagnostic-là, ce décrément, il est présent que dans 75% des formes généralisées. Donc, on a quand même un petit tiers des patients chez qui on n'a pas de décrément, qui est la signature électrophysiologique.
Et au-delà de l'électroneuromyogramme, comment peut-on confirmer le diagnostic de myasthénie ?
Pour confirmer ce diagnostic, finalement, dans ces formes généralisées où on n'a pas de décrément, ou dans les formes oculaires pures, où là, vu qu'ils ont des symptômes que oculaires, on n'a pas de stimulation répétitive qui parle, on va faire un examen très spécial qu'on appelle l'examen en fibre unique. On va vraiment analyser une paire de fibres musculaires, donc on va être vraiment plus précis, vraiment à l'échelle d'une paire de fibres, alors que sur les stimulations répétitives, on est plus à l'échelle du muscle, globalement. Et là, on va analyser ce qu'on appelle un jitter, qui est vraiment la différence, le temps de survenue de la deuxième deuxième fibre par rapport à la première fibre. Et ça, quand le jitter est très allongé, bien c'est en faveur d'une myasthénie. Et là, on a une bonne sensibilité de test, hein, à peu près 90-95% de sensibilité, même si la spécificité n'est pas parfaite. Puisqu'on fait toujours, même si l'estimation et appétite sont positives, c'est qu'on recherche les anticorps, parce que cette maladie, elle est auto-immune. Et donc, on va avoir des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine dans à peu près 85% des formes généralisées et la moitié des formes oculaires. Et puis, si ces anticorps sont négatifs, on va rechercher les deuxièmes types d'anticorps, qui sont les anticorps anti-MUSC ou MUSK, qu'on a dans à peu près que 5 à 10% des formes généralisées. Puis la dernière chose qu'on peut faire pour essayer d'asseoir un diagnostic, quand le reste souvent est négatif, surtout dans les formes oculaires pures, on peut faire un test thérapeutique où on va essayer les anticholines estérasiques, qu'on peut essayer par voie intraveineuse. Et là, on va avoir une réponse assez rapide en quelques minutes sur le ptosis ou sur la diplopie.
Et pour conclure, docteur Pega, quels sont les diagnostics différentiels à écarter cette fois en cas de suspicion de myasthénie ?
Il y a plusieurs diagnostics qu'on peut évoquer, ça dépend des symptômes des patients, mais sur un symptôme qui est fréquent, qui est la diplopie, bah sur une diplopie qui est brutale, qui est soit isolée, soit avec des signes centraux surajoutés, bah il faut évidemment penser à des maladies plus fréquentes comme l'AVC, et donc proposer une IRM cérébrale par exemple. Et puis il y a aussi les anomalies microvasculaires des diabétiques, où quand ils sont diabétiques, bah ils peuvent faire une diplopie assez brutale, où c'est un nerf crânien qui est touché. Dans ces maladies-là, la diplopie, elle est fixée, elle n'est pas fluctuante, contrairement à la myasthénie, et c'est ça qui en fait une des clés du diagnostic différentiel. Sur des patients aussi qui ont une diplopie mais sans ptosis, de surcroît, s'ils ont une exophtalmie, un diagnostic fréquent, c'est l'hyperthyroïdie ou le basse dos. Sur des patients qui ont en revanche juste un ptosis isolé, sans diplopie, ben là, on peut évoquer plutôt des myopathies héréditaires, et il y en a plusieurs. Et puis, ce qu'on peut voir, ce qui peut nous piéger un peu parfois, c'est des patients qui ont un ptosis, qui n'ont pas de diplopie alors qu'ils ont une parésie oculomotrice assez majeure. Et ça, on rentre dans le cadre des maladies très rares qui sont des cytopathies mitochondriales. Ça, c'est quand on est vraiment sur la sphère oculaire. Par contre, il y a d'autres diagnostics à évoquer quand il y a une fatigabilité des quatre membres, mais surtout membres inférieurs. Et là, quand les patients, ils ont assez souvent une aréflexie, ils ont assez souvent une dysautonomie avec un syndrome sec, parfois des troubles de l'érection chez les hommes. Ça, il faut évoquer une autre maladie de la jonction neuromusculaire qui est plus rare, qui s'appelle le syndrome de Lambert-Eaton, qui est aussi auto-immun, et où là, on a des anticorps anti-canocalciques dans vraiment la plupart du temps. Et puis, chez la moitié des cas, c'est associé à un cancer du poumon. Et là, ils ont aussi des décréments, mais ils ont ce qu'on appelle des potentiations post-effort sur des amplitudes motrices qui sont basses. D'où l'intérêt de faire toujours un air moteur pour voir si les amplitudes ne sont pas basses et pouvoir évoquer ce syndrome de Lambert-Eaton. Chez des gens qui ont une fatigabilité ou une faiblesse même fixée des quatre membres, plutôt proximale, parfois qui ont une dysphagie, tout ça qui évolue sur les dernières semaines, les derniers mois, on peut penser à des myopathies acquises ou des myosites. Et là, c'est d'où l'intérêt de toujours piquer un muscle. On peut avoir des fibrillations en repos, puis surtout à l'effort, les tracés vont être vraiment myogènes, ce qui est rarement le cas dans les atteintes myasthéniques ou les atteintes myasthéniques vraiment sévères. Et le dernier grand diagnostic qu'il faut évoquer, qui peut être piégeant, surtout sur les formes bulbaires, chez des patients qui ont une dysphagie, une dysphonie, une dysarthrie, bah ça va être la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Charcot. Sauf que là, on va avoir des patients qui vont avoir une amyotrophie de la langue ou des muscles, des fasciculations, puis eux, ils vont avoir un syndrome pyramidal. Et en électromyogramme, on va avoir vraiment beaucoup de fibrillation et de fasciculation et des tracés qui, là, au contraire, vont évoquer une maladie du motoneurone ou du nerf, avec vraiment des tracés qui sont neurogènes et non myogènes, et souvent des amplitudes un petit peu basses, ce qui n'est pas le cas dans la myasthénie.
Eh bien, merci mille fois, docteur Pega, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la myasthénie auto-immune ou myasthénie gravis. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.